Une fleur dans un champ d'herbe par Richard Keller, chapitre 15. Gilles est rentré ce matin de week-end. Il a passé des jours fabuleux avec ses amis, et tout ce qu'il aime était réuni. La nature, la musique, les couleurs et l'amitié ont formé un mélange heureux. Il sait pourquoi il a pris autant de plaisir à travailler avec Sagol pendant des années. C'est un fin psychologue, doublé d'un ami indéfectible. Il a mis une parenthèse dans la grisaille de l'affaire Benjamin, hanté encore par la boulette commise auprès des couples Bolton et Flaherty. Il a prévu d'informer Aurélie et Guillaume de la nouvelle organisation de la cellule spécialisée. Il ne laissera que deux hommes détachés sur le dossier et suivra l'évolution de celui-ci depuis son bureau en région parisienne. Il fera le point tous les jours avec ses collaborateurs. L'organisation actuelle restera en place jusqu'à la fin du mois. L'accueil à la ferme n'est pas enthousiaste. Les époulets chins ne marquent pas d'antipathie envers lui, plutôt de l'indifférence et de l'éloignement. Il n'essaie pas de justifier son manque de résultats. Chacun se comprend sans parler. À ce stade, ce n'est plus nécessaire. Que pourrait-il leur apporter de plus? Il ne peut partager leur détresse. Les mots n'y changeraient rien. La douleur est dans leurs veines. C'est beaucoup de leur sang qui a disparu. La partie la plus vivante de leur cœur s'est volatilisée sans laisser de traces. L'annonce de la nouvelle organisation ne provoque aucune réaction. Aurélie est ailleurs. Guillaume est lisse. La résignation succède à l'abattement. Il n'aime pas ça. Il préférerait les voir lui crier dessus. Il craint la suite pour ces deux-là. Il discute avec Guillaume, lui parle de la ferme, lui demande si son bétail a souffert de la sécheresse. L'homme répond par des bribes de phrases. Il n'a pas envie de parler. Gilles insiste. Il va dans le détail pour forcer Guillaume à soutenir le dialogue par courtoisie. Ce dernier se lâche un peu. Il confie que son cheptel n'a pas eu à souffrir de la sécheresse. Mais comme toute la filière agricole, il va pâtir de la situation. Il y a actuellement trop d'offres sur le marché. Un grand nombre d'agriculteurs vend ses animaux par manque de nourriture. Ici, c'est le contraire. Il y a beaucoup d'herbes. Mais lorsqu'il va vouloir vendre la partie du troupeau arrivée à maturité, il sera confronté à l'effondrement des cours. Pour compenser un peu ce manque à gagner, il va vendre de l'herbe ensilée et du fourrage en excédent. Aurélie n'a pas bougé de sa chaise. Gilles s'adresse à elle à son tour. Il lui demande si elle a repris des activités. Elle lui répond que non. Il la questionne sur ses passions. Mauvais choix. Elle répond Benjamin. Il s'excuse et pose sa question autrement. Quel loisir ou activité elle aime le plus? Sans hésiter, elle lui dit la peinture. Il lui demande encore si elle a des toiles en cours ou finies. Rien actuellement. Il a réussi à renouer un peu le dialogue. Gilles promet de ne rien lâcher, que ce soit dans le bocage ou en région parisienne. Le dossier Benjamin ne sera clos que lorsque votre fils aura été trouvé. Aurélie aperçut tout le sens de la phrase et essuie une larme. Avant de quitter la ferme, l'enquêteur demande des nouvelles du grand-père Hector. C'est Guillaume qui prononce, il n'a toujours pas remonté l'horloge. Plusieurs villageois ont reçu des lettres anonymes. Le corbeau écrit avec des syllabes découpées dans des magazines. Quatre personnes se manifestent à la gendarmerie. Éléonore Bolton est la première à voir Gilles. Elle lui présente la missive. Ce qui surprend, c'est que l'expéditeur du message a collé des grosses syllabes sur de vieilles feuilles de papier journal jaunies. Bien qu'il n'existe aucune règle en la matière, il est habituel de trouver des collages effectués sur des feuilles blanches. Les phrases sont courtes. Voici ce qu'a reçu la famille Bolton. Pour les membres de l'IRA, il y a la mort. Pour les dépravés, la mort. Pour les assassins de Benjamin, la mort. Madame Bolton tremble comme une feuille. Elle a peur. Elle ne comprend pas ce qui leur arrive. Et elle laisse entendre, à demi-mot, que la gendarmerie a sa part de responsabilité dans cette dérive. Gilles lui promet une surveillance discrète de son domicile. Elle répond que la discrétion dans le bocage ce n'est pas se dissimuler derrière les pommiers. Il n'insiste pas, lui répète simplement qu'il fera tout son possible pour élucider ce nouveau mystère. Elle quitte la gendarmerie en tremblant encore plus qu'à son arrivée. Justin Brécourt a beaucoup hésité avant de venir rencontrer le responsable de la cellule. Il n'est pas dans les habitudes du clergé de collaborer avec les services de police ou de gendarmerie. Ici, les propos tenus dans le torchon dépassent le cadre de mon sacerdoce. Monsieur Gilles, dit-il, c'est de la calomnie, on veut me discréditer. Le curé Brécourt est arrivé essoufflé, le teint rougeau. La lettre l'a ébranlé. Il ne s'attendait pas à de telles insinuations. Tu as forniqué avec le diable. Tu as baisé avec Lucifer. Tu as sodomisé tes paroissiennes. Tu dois expier avant que le village te crucifie. C'est un malade. Il faut le trouver et le soigner. Le brave curé a du mal à reprendre une respiration normale. Il est atteint dans son amour-propre. Le coup est bas. Il s'agit, selon toute évidence, du même individu qui terrorise Éléonore Bolton. Gilles lui promet de mettre ses hommes sur ce dossier. L'ecclésiastique repart un peu rassuré, le dos voûté. Il a vieilli de 20 ans en quelques minutes. Perplexe, il réfléchit à ce qu'il vient de lire et d'entendre avec le curé et l'anglaise. Il se dit que le corbeau ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il va déverser tout son venin et intimider d'autres personnes. Georges Vidal, le mari de l'institutrice, se présente à son tour. La réaction est différente. Le couple Vidal paraît solide, et l'homme lui déclare que ce torchon mérite simplement un usage que la décence lui interdit de prononcer. La méthode est identique, et le texte aussi abject. La lettre reprend la formulation de celle reçue par Madame Bolton. Ta femme suce ses élèves, ça mérite la mort. Ta femme baise le maire, ça mérite la mort. Tu te fais sucer ailleurs, ça mérite la mort. Gilles ne fait aucune remarque, il n'en est point besoin. Il se demande où l'impensable s'arrêtera. Il calme Monsieur Vidal et lui demande la discrétion pour ne pas nuire à l'enquête. Le comble de la bassesse est atteint. Il s'apprête à quitter son bureau quand l'adjudant-chef Flao l'intercepte. « Je souhaite discuter 5 minutes avec toi. » Les deux hommes s'installent dans le bureau du chef de brigade. Ce dernier soulève le sous-main. Il sort un papier jauni. Gilles a reconnu immédiatement le document. Il déclare « Et de quatre. » L'adjudant-chef est surpris. Gilles lui dit qu'il va lui expliquer, mais avant, il veut prendre connaissance du texte et savoir quel en est le destinataire. « Ce texte m'est destiné, mon cher. Je t'en prie, lis ces inepties. La mort pour les ivrognes, la mort pour les infidèles. Tu couches avec le diable. Le village doit savoir. »« Ça ne vaut pas mieux que le reste, » dit Gilles. Il emmène son acolyte dans son bureau et lui montre les 3 autres documents. Le corbeau est sûrement un malade, car il revient toujours sur les mêmes thèmes, avec un penchant prononcé pour les affaires du sexe. « À tort, probablement, » ajoute Gilles. Il explique à son collègue les auditions des 3 autres destinataires. Flao prend la chose avec détachement. Il a plus de 20 ans de gendarmerie, et il en a vu bien d'autres. Il avoue cependant que ce genre de péripétie, il en aurait fait volontiers l'économie. Les deux hommes conviennent de ne pas parler de cette lettre. Elle peut les aider à confondre le corbeau. Gilles a décidé de faire analyser les documents, mais il est sceptique sur les résultats. Ce sont rarement des empreintes qui confondent un corbeau, mais plutôt une erreur. L'individu se sentant de plus en plus fort commet une faute, et les enquêteurs ramassent le fruit mûr. Et pour le moment, il est seulement nauséabond.